une société donc qui a un certain nombre de règles qui sont établies dès le début, des règles assez strictes. La règle essentielle étant, par exemple, qu'il ne faut absolument pas s'ennuyer et que les personnages doivent prendre très garde à ennuyer les autres. C'est pour ça qu'on s'aborde toujours en demandant à l'autre si on le dérange ou si on l'ennuie, et s'il répond pas du tout, ça veut dire qu'on l'ennuie. Et si on répond sûrement pas, ça veut dire qu'on ne l'ennuie pas. Il y a un certain nombre de règles de ce genre. Une autre règle, par exemple, c'est que la société ne doit pas dépasser 12 personnes. Hein, ça reste une société assez réservée. Et qu'il doit toujours y avoir une femme en plus. Par exemple, s'il y a 7 personnes, il y aura 4 femmes et 3 hommes. S'il y a 12 personnes, il y aura 7 femmes et 5 hommes. Une femme en plus, pourquoi ? C'est parce qu'il me semble que, justement, c'est... le fait qu'il puisse y avoir un léger déséquilibre en faveur des femmes qui garantit la liberté des membres de cette société. Ça pourrait nous entraîner très loin.
Qu'est-ce que c'est que tous ces livres ? Dit Liv à l'aéroport.
Ma bibliothèque pour le séjour. Vous ne me verrez pas beaucoup dans la journée.
Laissez-moi voir, dit Sigrid. Bible, Homère, Dante... Sade, Saint-Augustin.
Toujours.
Oh, mais c'est très chic, ça. C'est quoi ?
El significado de cor en San Agustín. La signification de cœur chez Saint-Augustin, un classique espagnol, 1962.
Pourquoi cor ? Dit Liv.
Latin, cor, cordis. Le cœur. Desiderium sinus cordis.
Que vous traduisez comment, cher monsieur ?
Le désir mesure la profondeur du cœur.
Dieu sensible au cœur ? Le cœur a ses raisons ?
Voilà.
Et ça, dit Sigrid ?
Une étude sur la représentation de Bobo.
Bobo ?
Nous sommes à Prienne, en face de Samos, en 1898. Dans les restes d'un temple de Déméter et de Corée, du 4e siècle avant Jésus-Christ, les archéologues allemands viennent de découvrir un lot de statuettes en terre cuite dont l'étrangeté les déconcerte.
On me propose pour l'automne un Marivaux après Phèdre, dit Liv. Je dis oui.
Évident.
Le type hésite entre Marivaux et une comédie de Shakespeare. J'ai amené un peu des deux. On en a pour 10 ans, dit Sigrid. Marco et Cecilia pour la musique. Et dormir, dit Liv. Et mourir au soleil, dit Sigrid. Je veux du soleil ou mourir.
Il y a une grève des contrôleurs aériens. L'avion, venant cette fois de Zurich, décolle avec 3 heures de retard. Survole, contrairement à son habitude, la Belgique et l'Allemagne. Finit par arriver par très beau temps. Air brumeux, bleuté sur la lagune. Goélands sentinelles sur les piquets, toujours les mêmes. D'une année sur l'autre, recomposés, blancs et noirs, boules de vie passagères s'envolant parfois lourdement au-dessus de l'eau. Bien différent des mouettes de l'autre côté, sur la Giudecca, rapides, criardes, rayant l'air plus vif, agités par la circulation des bateaux.
Le plaisir, ça a été aussi peut-être la recherche de gens comme le Marquis de Sade. Je ne pense pas que vous soyez le Marquis de Sade, parce qu'il me semble que le plaisir que vous proposez là est un plaisir plus tranquille, plus cool, comme on dirait maintenant, probablement que... Enfin, ce n'est pas une recherche absolue au niveau du plaisir.
Ce qui m'intéresse chez Sade, c'est plutôt l'organisation des espaces et du récit, c'est-à-dire les lieux refermés et le voyage. La problématique du sadisme, comme on dit, me paraît être une grande anticipation de Sade à son époque sur ce qui allait venir ultérieurement, c'est-à-dire le couloir, le tunnel du 19e et du 20e siècle et le fait que la mort, la pulsion de mort allait prendre vraiment le dessus. Donc l'œuvre de Sade anticipe, à mon avis, sur l'extraordinaire pulsion de mort qui s'est déchaînée au 19e et 20e siècle. Je crois que nous ne sommes pas du tout dans la même situation et que quelqu'un, par exemple, comme Casanova, se retrouve beaucoup plus proche de nous aujourd'hui Car si on lit Casanova, on voit que lui, il a eu comme motif principal dans l'urgence qui lui a fait écrire ses mémoires, d'ailleurs très mal lu, dont il est beaucoup question dans Le cœur absolu, il a eu comme motif principal le fait de préserver tout un trésor qui allait disparaître. Il est mort en 1798, et vraiment, dans les deux ou trois années qui suivent sa mort, le monde change complètement sur son axe. Donc c'est plutôt Casanova qui est présent dans ce livre, c'est-à-dire une façon très mobile, très légère de traverser les situations, d'avoir un certain art de la conversation qui était essentiel à cette époque. Mais le projet sadien demeure dans la mesure où le roman, pour moi, doit intégrer l'aspect philosophique des choses et où la philosophie est intégrée dans le roman. Mais la perspective est une perspective de légèreté maximale, musicale et transitoire.
Vous parlez de Venise comme étant le lieu de tous les plaisirs, mais n'êtes-vous pas comme le baron Corvaux qui part de Venise, lieu de tous les plaisirs, dans cette tempête dont vous avez le pressentiment ou la préscience, et pour aller échouer où?
Moi, je crois que Venise va survivre à tout, pour la bonne raison que tous les plans ont été faits sur Venise comme ville devant disparaître, incarnant la mort, la disparition, la mélancolie, vous savez, la mort à Venise, de Bassman. Et puis, je crois que c'était une sorte de prophétie allemande sur Venise. Hein, le romantisme et la dépression allemande ont pensé Venise comme quelque chose qui devait disparaître. Et moi, j'ai le sentiment exactement contraire, savoir que peut-être que tout disparaîtra, mais sauf Venise.
Je sors. C'est le crépuscule velouté habituel. Les hirondelles crient encore. On entend les merles et les rossignols. L'odeur sucrée des acacias traverse par bouffées le Campo San Vio. L'eau, vers la Salute, est-elle lapis lazuli, turquoise, aigue-marine, opale? Solution mercure, en tout cas. Tout est feutré, coulissé, ombre, clapotis des vagues. On se déplace dans la translation des reflets. J'ai rendez-vous avec Liv et Sigrid. On va manger rapidement avant le concert. Friture de poisson avec beaucoup de citron et vin rouge. Elles sont mélancoliques. Quelque chose ne va pas? Non, simplement l'abrutissement de la foule. Tout est désert ce soir. Le vin les anime.
Vous avez bien travaillé, dit Liv.
Un peu.
J'ai découvert une église extraordinaire, dit Sigrid, avec le seul Christ qu'ait sculpté Tiepolo. Il faut que vous voyez ça.
Elles sont en noir toutes les deux, décolletées, parfumées, déjà bronzées, fatiguées d'avoir tant marché, soucieuses quand même. Des téléphones de Paris, probable. Vous ne vous ennuyez pas?
Sûrement pas.
Tout va bien. Cécilia et Marco sont depuis 2 heures au théâtre.
Vous n'avez pas mis de cravate, dit Liv. On ne va pas vous laisser entrer.
Mais si.
Vous avez les invitations?
Bien sûr. Et même un petit mot de recommandation de Marco pour le contrôleur de l'entrée, un monsieur Martelli. Enveloppe cachetée, vous verrez, m'a-t-il dit. Une surprise. Répondez franchement, dis-je. Vous me trouvez vieux.
Vous avez de la fièvre, dit Sigrid. Vous avez des difficultés avec votre dernier chapitre, dit Liv.
Non, sérieusement, votre avis. Elles se regardent, se lèvent, viennent derrière moi, m'embrassent chacune sur une joue, se rassoient.
Évidemment, dit Sigrid, vous n'êtes pas de la toute première fraîcheur. C'est sûr, dit Liv. Si on veut des sensations fortes, autant voir ailleurs.
Elle rit. Elles vont beaucoup mieux tout à coup. Téléphone d'Hippolyte? Ennui de carrière pour Sigrid? On ne parle presque jamais de la vie courante. Les télévisions de Liv, les intrigues de la faculté pour Sigrid. J'ai envie de les baiser, là, tout à coup. Je leur dis. Elles font semblant d'être choquées.
Un vieillard comme vous, dit Sigrid, vous n'avez pas honte. Un monsieur de votre culture, dit Liv. À qui se fier? Tenez, vous n'avez qu'à prendre exemple sur le Dalai Lama.
Elle me tend le Corriere. Le Dalai Lama porte allègrement la cinquantaine, immuablement vêtu de l'habit grenat et jaune qui, à première vue, ne le distingue en rien des autres moines tibétains. Le crâne rasé de près, le bras droit toujours découvert par la toge, le geste précis, sa sainteté d'une voix de baryton bien timbrée, aux inflexions profondes, répond aux questions à un rythme posé.
Il y a une chose que vous devriez comprendre, dit Sigrid.
Oui ?
Vous avez un ticket de faveur, une fois pour toutes. C'est très injuste, mais c'est ainsi. Aucune femme ne vous a jamais dit ça.
C'est quoi, un ticket de faveur ?
Il est fatigué, dit Liv. Son roman ne vaut pas grand-chose, dit Sigrid. Après tout, il est peut-être réellement très vieux, dit Liv. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, chérie ? Dit Sigrid. Qu'on drague un jeune et beau gondolier, qu'on se le tape devant vous et qu'on dise qu'on vous préfère? Combien de fois? 2? 3? 4? Vous avez votre pulsion homosexuelle? Des doutes sur votre virilité? Une petite salope vous a déprimé.
Ça doit être ça.
Où est-elle? Dit Sigrid. Toujours un peu militaire. Je la veux. Et le cœur absolu, dit Liv, je trouve qu'on ne s'occupe pas beaucoup de la société. Est-ce que Sigrid tient toujours le journal? Qui a quelque chose à dire sur les adhésions? Quoi de neuf? Et le carnet rouge, dit Sigrid, en panne? Vous devriez nous raconter une autre semaine, une de vos mille et une nuits. Ce n'est pas la peine d'être dans la ville de Casanova pour s'endormir.
Ok, ok. On finit la deuxième bouteille de Chianti. On se dirige vers la Fenice. Elles sont pendues à mes bras. Elles continuent leurs insolences excitées. Ruelle noire, maintenant, pont blanc. Liv récite un peu Phèdre. Sigrid chantonne Cosi. On arrive devant les premiers barrages de police. J'ai laissé mon canif chez moi.
C'est peut-être comme un livre initiatique, dans la mesure où celui qui parle là est initié. C'est cette culture et c'est ce choc entre le nivellement de la culture, enfin, voulu par la société. Au fond, c'est un livre initiatique. C'est peut-être comme ça qu'il faut le voir.
Oui, je crois qu'on peut dire ça parce que, premièrement, il s'agit d'un livre de guérison, du début à la fin. Au début, le personnage est très malade, très, très vulnérable, et à la fin, il est de plus en plus sûr de lui à travers un certain nombre d'épreuves. Et deuxièmement, c'est, je crois, comme les livres précédents, mais de façon encore plus insistante là, un livre sur le temps. C'est une méditation sur le temps. Qu'est-ce que le temps? Donc, qu'est-ce que c'est que l'instant? Qu'est-ce que c'est que le fait de s'y reconnaître par rapport au temps, de savoir où on est par rapport au temps? Et c'est pour cela que la spéculation du narrateur dans toutes ses aventures, notamment amoureuse, physiologiquement très décrite, consiste à savoir comment l'acte amoureux condense le temps. Comment on peut avoir comme ça des jours qui passent très vite ou très lentement, des semaines, des mois, et qu'est-ce qu'une année en définitive? J'ai toujours été très impressionné par la façon dont Joyce, dans Ulysse, avait réussi à tout faire rentrer dans une seule journée. Je ne peux pas recommencer la description d'une seule journée. Là, j'ai voulu rendre sensible ce que c'était qu'une année vécue avec des tranches de temps extrêmement rapides, très condensées, ou alors des tranches de temps, au contraire, très interminables. Dans la sixième partie du livre, il y a 10 jours décrits dans une île. Et là, j'étais content du résultat auquel j'étais arrivé parce que j'avais réussi, par une certaine accumulation de détails, de conversations, d'impressions de temps qui ne va nulle part, à donner, pour moi-même en tout cas, j'espère pour le lecteur aussi, l'impression d'un temps qui n'en finit plus. Alors c'est tantôt des temps très rapides, très raccourcis, et tantôt des temps qui n'en finissent plus. On sait très bien que quand on est mélancolique, déprimé ou amoureux à la romantique, le temps paraît interminable. Ici, interminable mais de façon négative. Ici, rien de tel, le temps est vécu d'une façon très intense dans le moment, ou alors il est délicieusement interminable.
Je prépare le petit déjeuner. On s'installe sous le catalpa, boule verte.
Il était plein d'oiseaux cette nuit, dit Sigrid.
Oui, il s'installe là pour dormir. Pourquoi cet arbre-là ? Mystère. Chaleur spéciale du bois.
Ils s'en vont le matin ?
Il faut croire.
Ça faisait tout un frisson noir dans les feuilles.
Je vous ai dit que les maisons étaient hantées. Elles ont mis des pareos multicolores. Live, rose et violet, Sigrid, rouge et noir. Le grand air les bronze déjà.
Le tennis est loin, dit Liv.
2 kilomètres.
On joue ?
Quand vous voulez.
Ce soir.
D'accord.
Vous avez une machine à écrire en plus, dit Sigrid.
Oui, une petite Triomphe.
Vous avez des romans dans votre bibliothèque, dit Liv.
Plein.
Vous m'en choisissez 2 ou 3 ? Du policier.
D'accord.
On déjeune à peine, hein ? Dit Sigrid. Salade et poisson le soir.
Vous pouvez faire livrer ce qui vous plaît.
Votre thé est très bon, dit Liv. Il y a toujours autant de papillons.
C'est en votre honneur.
Toutes ces fleurs sont à arroser, je suppose, dit Sigrid. Où sont les tuyaux ?
Dans le garage.
Vous me montrez ça, on va faire quelques courses et on se baigne après ?
Ok.
On peut déplacer le téléphone, dit Liv. Qu'est-ce qui vous dérange le moins ?
Prenez-le dans la matinée. Je le garde l'après-midi, sauf si vous me dites.
Bon. Le courrier arrive à quelle heure ? Dit Sigrid.
3h moins le quart.
Si on veut vous laisser un mot sans vous déranger, on le met où ?
Sur la margelle du puits, sous la pierre blanche.
On peut sortir le bateau ? Dit Liv.
Il est à vous.
Je crois que ça va être un séjour acceptable, dit Sigrid.
C'est l'objectif. Il faut laisser les micros ouverts.
Pardon ? Que dit la météo ? Dit Liv.
Un peu nuageux, puis très beau. Léger vent nord-ouest. Le zéphyr, dont les risées sifflantes montent de l'océan pour rafraîchir les hommes.
Vous avez vu l'anglaise du Paradise ? Dit Sigrid.
Elle est là depuis 2 ans. C'est l'amie de la fille des propriétaires. Elles font un échange. L'une va en Angleterre, dans le Kent, l'autre vient ici.
Elle a quel âge ?
18.
Son nom ?
Gellet.
Belle, non ?
Très. Pas impossible.
Extrêmement possible.
À vous de jouer, alors.
Mais certainement, mon cher. Vous êtes incroyables, tous les deux, dit Liv. Pas de vacances, toujours le forcing. On explore, dit Sigrid. Encore un peu de thé ?
Du café pour moi, merci.
Et en plus, il sait faire les œufs coqs 3 minutes, dit Liv. Demain, c'est moi. Moi, après-demain, dit Sigrid.
Liv se lève, va couper 3 roses, nous en donne 1 à chacun. On se regarde un peu ridicule avec nos fleurs. On rit, mais pas tellement. On va au bout de la pelouse. On les jette dans l'eau en silence.
Thank you. livre des voix présenté par Pierre Cipriot. Aujourd'hui, c'était Le cœur absolu de Philippe Solers, publié aux éditions Gallimard, avec Irène Omelianenko. Chef opérateur du son, Philippe Destrebet, collaboration technique, Gilles Pézerat, assistante, Cécile Tranvan, réalisation, Jean Couturier.